Merci beaucoup aux deux intervenants. On va donc démarrer une discussion d'abord restreinte, peut-être, avec Sarah et Christine. Moi, ce que je proposerais, Christine, c'est que ensuite on ouvre les discussions parce qu'on a quand même une vingtaine de personnes, 27 personnes qui sont là, et puis qu'on prenne un petit temps pour échanger sur les deux interventions, mais peut-être sur d'autres également, parce que là, on arrive au bout, en fait, des six interventions. Donc, on a eu plusieurs propositions, plusieurs terrains, plusieurs approches de cette question des performances de dignité. Et je pense que ce serait bien que ça ne reste, enfin, que la parole ne soit pas concentrée juste par nous. Alors, peut-être on va commencer tout de même par vos commentaires, Christine et Sarah, sur les deux interventions, sur leurs échos, peut-être aussi, je ne sais pas. C'est des
Sarah,
perspectives très différentes, mais...
oui, merci. Beaucoup de choses en tête. Merci à tous les deux pour l'analyse. Alors, on n'a jamais, je ne connais pas de terrain que je ne connais que par une collègue qu'on connaît un peu tous. Je me posais la question très brièvement de ce que vous appelez slackness, ou ce qui est peut-être appelé slackness dans le terrain qui est le vôtre. En vrai, enfin voilà, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Comment les gens étayent cette idée-là, et comment vous l'étayez? Parce que je ne suis pas totalement sûre de voir en fait comment, en fait, qu'est-ce qu'on met dedans? Qu'est-ce que ça représente au-delà d'une opposition vis-à-vis d'une norme? Et dans quelle mesure, en fait, j'ai peut-être raté des choses, hein, donc vous m'en excuserez si c'est le cas. Dans quelle mesure ça se transforme en performance au-delà de la danse, qui est déjà pas mal. Je ne vais pas dire le contraire, parce que c'était mon métier. Ça veut dire quoi? Voilà. Pour faire très
Alors,
court.
est-ce qu'on m'entend?
Oui,
Ouais,
très bien.
très bien. Alors, c'est un concept proche de l'expérience, un experience near concept, comme dirait Clifford Geertz, à savoir que ce n'est pas mon vocabulaire, c'est le vocabulaire des actrices et des acteurs du dancehall. Et c'est là-bas qu'on a tendance à structurer la scène autour de ces deux pôles dialectiques que sont culture, conscience de soi, de l'exploitation, de la domination, et slackness, relâchement, aussi avec une connotation de débauche, de sexualisation, etc., qui serait la part, entre guillemets, mais il faut vraiment mettre les guillemets, plus vulgaire du dancehall, et qui ferait scandale vis-à-vis des bonnes mœurs, etc.
D'accord.
Et la manière dont ça se traduit dans les performances dansées, c'est notamment dans ce que les Occidentaux et un certain féminisme occidental a tendance à voir comme une objectification, une hypersexualisation des corps féminins et des corps noirs, etc., avec une nudité affichée, une espèce de... Mais le problème est connu, c'est-à-dire que quand les gens qui sont en rupture vis-à-vis des codes bourgeois et les pauvres en général affichent certaines... tendances esthétiques qui sont toujours vulgaires. Donc voilà. Et c'est ce que je voulais exprimer dans l'exposé, c'était cette tension entre culture et slackness qui, selon la lecture qu'on peut en faire avec Caroline Cooper, Donna Hope et bien d'autres, n'est pas et moins. Il faut moins chercher à opposer ces deux notions qu'à les articuler pour comprendre comment se construit cette scène du dancehall. Parce que les deux aspects sont pas isolables l'un de l'autre, finalement. Je veux pas être trop long. Je dirais juste, par exemple, que parmi les DJ qui sont typifiés comme conscients du côté de la culture, etc., comme j'ai cité Capleton, Sisla Kadongi, qui sont sans doute les plus connus, ces DJ-là, Capleton par exemple, a commencé par le slackness. Avant de sentir la révélation de la spiritualité rastafarienne, etc., et de s'engager sur une autre voie. Mais tout ça cohabite souvent dans une même personne.
D'accord. Parce que du coup, je me posais la question aussi en entendant dans Managerie aussi, peut-être que le dégoût est un espace aussi de performance et d'affirmation de soi. Parce que là, les femmes dont vous parlez, en fait, elles ont l'air effectivement de renverser les codes et d'agir selon les gens qui les regardent comme comme représentant la slackness dont vous parlez, et dans le même temps, en fait, jouent un double ou triple jeu qui leur permet d'avoir un peu d'empowerment. Je vais faire du franglais, ce n'est pas du tout bien. Et du coup, peut-être que voilà, est-ce que le dégoût, le supposé avilissement n'est pas un espace aussi pour cette performance et pour s'affirmer? Voilà, c'est une question en l'air, ouverte pour tout le monde. Mais je ne vais pas monopoliser la parole. Et puis la deuxième présentation, écoutez, il y a plein de choses. J'ai lu votre livre, donc il y a des connexions que j'arrive à faire également. Merci. Je me posais la question de la scène, puisqu'on parle de performance, et du marché aux esclaves comme scène d'acquisition d'une forme de plaisir ou du moins d'une expérience plaisante pour les esclaves, pour les acquis, enfin les slaveholders, moi aussi je vais faire français-anglais, pour les gens qui acquièrent les esclaves, donc les futurs propriétaires. Et ça m'interroge en fait. Voilà, effectivement, il y a la mise en scène des esclaves qui sont lavés, qui sont présentés pour qu'ils soient achetables. Mais je me demandais où est-ce qu'on place le curseur, en fait, du plaisant et du... Parce que c'est une transaction économique, principalement. Et donc, dans ces cas-là, il y a effectivement une performance qui est celle des esclaves et la performance qui est construite par une sorte de metteur en scène qui est le marché, le vendeur d'esclaves, avec un public. Voilà, je me posais là, je suis circonspecte et pleine de questions, mais tout à fait prête à être convaincue. Du côté plaisant de l'expérience totalement. Je pense que j'entends bien en fait le côté propriété et jouissance et prospective vers une jouissance le plaisir au moment où ils achètent, en fait, c'est ça. C'est le moment, dans le moment de la rencontre et sur cette scène-là, est-ce que dans ce moment-là, en fait, le plaisir émerge d'une manière ou d'une autre? Vous n'avez pas forcément une réponse à ma question embrouillée, donc c'est... Ce sont des pistes aussi. Et puis aussi, l'après, en fait. Alors, peut-être que l'étude sur laquelle vous travaillez en ce moment, c'est principalement sur la période esclavagiste. Puisqu'il y a des continuités jusqu'à l'époque contemporaine, il y a peut-être une question aussi sur cette expérience-là et quelles sont les trames et les continuités qu'on peut voir à la fois dans la société américaine, mais peut-être ailleurs dans des sociétés post-esclavagiste, et du coup qui serait peut-être un peu différent dans une société coloniale ou post-coloniale. Voilà, je ne vais pas développer tellement plus parce qu'effectivement il y a d'autres gens qui ont certainement un certain nombre de questions, je ne veux pas monopoliser la parole. Merci en tout cas.
Peut-être, oui. Peut-être Norman Adjari peut répondre avant que Christine fasse des commentaires.
Ok. Sur cette question de la scène et des continuités, effectivement, j'ai mentionné en passant un truc parce que c'est dans mon propre livre, parce que ça m'avait été suggéré par un danseur assez fameux et enfin un professeur de danse, un intellectuel qui est d'origine camerounaise, qui s'appelle James Carless. Et lorsque j'avais discuté avec lui, il m'avait parlé du Alvin Ailey American Dance Theater, qui est un théâtre assez fameux aux États-Unis, qui présente des spectacles de danse et des formations composées de notamment de personnes noires, et dans laquelle, selon lui, et j'étais d'accord avec lui après avoir été vérifié, effectivement, cette esthétique-là, c'est-à-dire cette esthétique des corps musculeux et des corps noirs huilés, était d'une certaine manière reproduite, et que c'était une sorte de, comme je le disais tout à l'heure, une sorte de trope ou une sorte d'imaginaire ou d'imagerie par défaut du corps noir désirable. Si vous voulez, cette position du noir torse nu qu'on peut voir également dans la musique populaire, dans la musique rap, etc., c'est un élément qui est devenu, parmi d'autres, l'un des fondements, même l'une des conditions de possibilité du caractère commercialisable de la culture populaire noire. Quant à savoir à quelle mesure ou dans quelle mesure, jusqu'à quelle mesure ou jusqu'à quel extrême ou extrémité cette affaire-là peut faire plaisir, je pense que, bon, tout dépend des interprétations qu'on suit, tout dépend de la manière dont on suit la chose et dont on, et à quel point on veut aller. Mais si on suit Hartmann, en tout cas, si on suit la manière dont Saïdia Hartmann a posé la chose, pour que c'est elle, d'une certaine façon, dans Sins of Subjection, qui a vraiment cadré cette discussion-là et dont on hérite actuellement, selon elle, cette dimension du plaisir va très loin et en tout cas, elle est soutenue par tout un ensemble de discours, à la fois des discours médicaux, à la fois des discours commerciaux, etc., qui visent fondamentalement à créer non pas seulement une insensibilité de l'acheteur ou du propriétaire d'esclaves à la douleur possible de ses esclaves, mais comme elle le dit elle-même, d'être dans une économie dans laquelle on prête ou dans laquelle la douleur, la souffrance de l'esclave est elle-même interprétée nécessairement comme une jouissance et dans laquelle on peut partir du postulat, évidemment faux, mais partir du postulat faux d'une jouissance partagée, qui commence à être évidemment mise en scène dès le marché aux esclaves et dès la caravane d'esclaves par ces fameux chants qui sont ceux des esclaves qu'on force à chanter sous la menace du fouet, et toute la théâtralisation de leur force, la théâtralisation de leur insensibilité à la douleur telle qu'elles sont, comment dire, telle qu'elles sont présentées, etc., etc. Donc, je pense que c'est pas simplement, si vous voulez, la position de l'acheteur en tant que tel qui est en cause, mais sa place dans une sorte d'économie libidinale qui est mise en scène et où tout est fait pour, d'une certaine façon, lubrifier ce rapport social qui est celui de l'acquisition de l'esclave et pour en faire quelque chose où tout est fait pour en donner l'apparence d'un caractère consensuel. D'une sorte de transaction librement consentie par les deux parties et dans lesquelles les deux seraient susceptibles de prendre du plaisir. Et ça, ça fait partie d'une certaine façon de l'idéologie de base du Sud qu'on voit dans énormément de documents et dans énormément de textes. C'est-à-dire que les esclaves sont peut-être parfois, souvent récalcitrants, mais sont fondamentalement et dans leur majorité contents de leur sort et satisfaits de leur situation qui est beaucoup mieux que celle qu'ils auraient connue dans cette Afrique abominable et sauvage dont ils ont été arrachés.
D'accord. Du coup, ça connecte aussi un peu avec ce que Wélier dit dans Habeas Viscus, en fait, j'imagine. Mais c'est une autre discussion un peu énorme. Mais je vais laisser la place. Merci beaucoup.
Christine ?
Oui. Bien, merci à vous deux, merci Jérôme, merci Norman. Moi, j'ai appris beaucoup de choses en vous écoutant. Bon, des choses qui me sont un petit peu plus familières côté Jamaïque, qui me sont devenues familières au niveau de ce que disait Norman par rapport aux American Black Studies, qui ont, je pense que c'est une histoire de temporalité entre les British Black Studies et les American Black Studies, parce que je vois émerger un vocabulaire qui n'avait pas, dans l'ancien paradigme, le paradigme d'Hilroy Stuart Hall et tout ça, la fongibilité, etc. Ce sont des choses qui arrivent et qui nous arrivent ici aussi en France, en rapport avec toute la littérature qui est en train de se développer sur le plantationocène, sur tout ce courant où on découvre aussi Fred Motten qui a un énorme succès en ce moment. Donc, c'est, je crois que c'est plutôt des histoires de temporalité, de paradigme qui font qu'on se retrouve familier, proche de certaines notions. Et justement, celle de fongibilité m'a énormément interrogée. Je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps, je l'avoue. Je me suis demandé pourquoi on arrivait à ce terme-là alors qu'on avait déjà eu marchandises, on avait déjà eu produits, on avait déjà. Et pourquoi j'ai comme l'impression que ce terme vient encore nous signaler quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre et qu'il faut de plus en plus de termes et de plus en plus comme une, alors je vais pas dire une surenchère, mais comme une interpellation qui pour une conscience globale, j'ai envie de dire, pour pas dire universelle, hein, parce que on n'arrive pas à comprendre ce que vous nous avez très bien dit, Norman, sur le miracle de la survie, parce qu'on était véritablement, on est véritablement dans ce qu'on peut appeler un miracle de la survie, dans des conditions que nous n'arrivons pas, nous et le nous, je le dis collectivement, hein, noir, blanc, etc., nous n'arrivons pas à rendre compte de cette expérience dans sa part d'inhumanité, nous n'y arrivons pas. Les musées, n'en parlons pas, tout ce qui est de l'ordre du patrimonial, mémoriel, c'est presque carnavalesque. Et là, je pense au Memorial Act en Guadeloupe. Voilà, on n'y arrive pas. Et je me dis, le fait qu'on ait besoin encore de termes nouveaux, c'est encore une interpellation. Mais ça, c'est mon interprétation. Hein. Je ne sais pas si elle est bonne. Mais alors, Norman, sans le savoir, vous nous avez aidé à comprendre, enfin pour moi, ce que nous nous sommes dit ce matin. Vous n'étiez pas là, et qui nous permet aussi de raccorder à Jérôme sur la dignité, parce que vous avez dit qu'elle est dans la philosophie kantienne, elle serait une qualité inhérente à n'importe quelle vie humaine, sauf qu'il y avait des exceptions. Et on se retrouve pour essayer de connecter toutes nos communications avec deux trajets de la conquête de la dignité, l'un qui serait de prouver qu'on n'est pas dans l'exception. C'est-à-dire qu'on peut confirmer la règle qu'on est un humain vu dans la philosophie occidentale, etc. Et l'autre, qui est plutôt le sacness, la résistance qui est le renversement des normes de la dignité. Parce que le reggae et surtout le dancehall, c'est complètement une non-acceptation, une contestation profonde des normes bourgeoises britanniques de la société coloniale. Et c'est ce qui est ce que vous nous démontrez, Jérôme, et qui pose question même à certains Jamaïcains pourtant extrêmement politisés des années 60-70 qui ont du mal à comprendre, à avoir les clés pour… et moi, je les ai pas, hein, je vous l'avoue, hein, on a beau me dire que les femmes renversent les codes, on a beau me dire qu'elles sont en train de reprendre le pouvoir, l'empowerment, etc. Chaque fois que je regarde les vidéos sur le dancehall, le daggering, qui est hyper violent, d'une violence sexuelle terrible, je me dis, j'ai pas les codes, j'assume de ne pas avoir les codes, mais j'entends le discours comme quoi c'est un renversement. Je me suis retrouvée dans des regroupements de funérailles de Don à Kingston dans les défilés, enfin le défilé de funérailles avec des codes qui sont extrêmement surprenants, hyper sexués. Je croyais que j'étais à quelque chose de l'ordre d'un carnaval, et où je mets en lien avec ce que nous disait Norman sur la façon d'enterrer ses morts. Et là j'étais avec des amis très politisés, très conscientisés, qui eux-mêmes étaient en rupture avec ces codes-là. Donc, c'est vrai que la société jamaïcaine est aussi multicodée. Et les dignités, indignités, etc., ça fait l'objet de plusieurs économies morales, comme vous l'avez dit. Donc, j'ai pas trop de questions, j'ai des commentaires, j'en aurai plein d'autres, mais je suis obligée de me taire. mais je vous remercie parce que c'était vraiment très intéressant et ça mériterait de discuter pendant des heures.
Oui, allez-y. Hein,
juste, parce que j'ai trouvé ça vraiment très très pertinent ce que vous avez dit sur la fongibilité et sur comment dire l'espèce de, parce que Hartmann, si je me souviens bien, son livre c'est 97 ou 98 ou peut-être 2000, quelque chose comme ça. Donc ça a mis du temps avant que le terme devienne aussi, comment dire, aussi et un usage aussi intense que c'est le cas aujourd'hui dans la littérature, parfois même. Même, voilà, il y a même un papier de Sirma Bilge pour parler de l'intersectionnalité à partir de la fongibilité. C'est-à-dire, c'est bizarre d'avoir fait ça. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est quelque chose d'assez étrange. Mais je pense que le surinvestissement ou l'investissement très 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 fort de ce terme en ce moment provient d'une expérience assez spécifique qui est liée à Black Lives Matter d'une certaine manière. C'est-à-dire le constat de la persistance d'une négrophobie intense et même dans certaines dimensions sous son aggravation, c'est-à-dire que la richesse relative des États-Unis est aujourd'hui plus faible qu'elle a été dans la période de la fin de la Reconstruction. C'est pire maintenant que juste après la période de l'esclavage, qui est absolument sidérant. Donc la persistance de cette négrophobie intense, incarcération de masse, etc. Et en même temps, l'hégémonie culturelle. Pourquoi est-ce qu'il y a une hégémonie culturelle? Enfin, peut-être hégémonie culturelle est un terme un petit peu fort, mais en tout cas, une légitimation de la présence culturelle africaine-américaine extrêmement forte et en même temps, une continuité dans l'abjection du corps noir et dans l'incapacité de construire pour l'écrasante majorité de la population africaine-américaine une richesse intergénérationnelle, c'est-à-dire de constituer une bourgeoisie, par exemple, ou des choses comme ça. Je pense que cette notion de fongibilité, c'est un outil qui permet de comprendre ça dans un contexte où, d'après l'échec du nationalisme noir, du black power, etc., où les noirs, y compris les mouvements politisés noirs, sont réduits à une position extrêmement défensive et où on constate que la voie de l'hégémonie culturelle, la voie de la légitimation artistique et de la production artistique n'est nullement un gage ou une voie vers la libération, pas plus d'ailleurs que la création d'une classe intermédiaire noire de maires et de politiciens, que cela n'a aucune incidence sur l'existence réelle de la classe ouvrière noire aux États-Unis. Et je pense que voilà, cette notion de fongibilité, c'est un bon outil pour comprendre ça. Et je vous remercie d'avoir posé la question, car ça, ma tentative de réponse a clarifié énormément de choses pour moi.
Moi, j'avais une question à poser à Jérôme Bauchet sur la place en fait de cette analyse des stratégies d'artistes jamaïcains dans votre travail plus général. Vous avez commencé donc par la boxe, par une ethnographie de la boxe. Donc, comment vous le placez? Parce que je pense qu'il y a un enjeu aussi qui est important, c'est de sortir. On a parlé tout à l'heure d'exceptionnalisme, de sortir aussi de petites sphères un peu aréales. On oublie de penser un peu, peut-être à nouveau frais, mais à notre condition commune, si c'est possible. Donc, est-ce que pour vous, en fait, c'est un pas de côté un peu exotisant ou pas du tout, hein? C'est le même travail, finalement, que dans les salles de gymnastique et d'entraînement.
Bon, merci pour cette question, parce que elle me renvoie au fondement même de ce qui me constitue en tant que chercheur. C'est jamais évident. Très souvent, parce que précisément dans la vie universitaire, on a tendance à hyper spécialiser les discours et les personnes, on a parfois un petit peu du mal, où on vit comme de grands écarts, le fait que quelqu'un puisse s'intéresser à des choses apparemment sans rapport, comme l'expérience pugilistique, le dancehall, etc. Ce qui fait lien dans ma démarche, c'est une question fondatrice que j'ai retrouvée dans différents intérêts existentiels qui m'engageaient autant en tant que personne que comme chercheur, c'est la question de la résistance, de ce que James Scott appellerait peut-être les résistances quotidiennes, everyday resistance. Quand j'ai travaillé sur les boxeurs, j'ai pas décidé d'aller chercher de la résistance dans les gymnases. J'ai péniblement, parce que je suis un laborieux, hein, il me faut du temps moi pour arriver à percuter quelque chose, j'ai, à tous les sens du terme, aussi bien intellectuellement que physiquement, j'ai mis du temps pour comprendre que le gymnase, finalement, fonctionnait, même si j'aime pas trop cette idée de fonction, mais pouvait fonctionner comme un dispositif de résistance à certaines formes de domination socio-raciale. Je ne vais pas rentrer dans les détails, à moins que vous ne le souhaitiez, mais en tout cas, c'est une question qui traversait d'autres intérêts chez moi, et notamment la connaissance que j'avais à la fois familiale et au-delà des Antilles, de la Martinique plus précisément, où je voyais se déployer tout un ensemble de cultures expressives comme celle du Belé ou du Ladja, qui est un cousin de la Capoeira, investi par toute une jeunesse revendicative, résistance, très critique vis-à-vis de la situation coloniale qui était vécue, éprouvée comme telle aux Antilles. Et là encore, il me semblait que des questions de résistance se jouaient à travers les corps, etc. Et la connexion avec la Jamaïque, le dancehall, ben, elle est elle aussi existentielle parce que j'ai fréquenté les sound systems énormément. Vous voyez, dernier mois, puisque je suis chez moi, des vinyles, il y en a toute une collection, etc. Et voilà quoi, le travail de selector, etc. Ça fait partie de ma vie. Et donc j'ai fait des émissions de radio. Et j'ai profité de ces émissions de radio pour aller interviewer des artistes jamaïcains. J'en ai interviewé beaucoup. Ça transparaît pas dans la présentation que j'ai faite aujourd'hui. Et j'ai pas nécessairement envie de donner une forme strictement universitaire, classiquement universitaire à ce travail. Et je cherche encore aujourd'hui comment rendre compte de ces Black Talks, comme pour citer un album de jazz funk que j'aime beaucoup de Charles Ireland. Et faire en sorte que de pouvoir écrire à partir de ces entretiens. Je cherche encore la forme qui sera la meilleure, mais en tout cas voilà, c'est une. Je sais pas, je suis en train de diluer ma réponse dans plein de choses, mais c'est la connexion, elle est avant tout existentielle dans ces différents pans de mon travail qui tentent de réfléchir et d'appréhender cette question des résistances, non pas tant à la domination qu'à différentes formes d'adversité. Parce que j'ai tendance à croire maintenant que la domination n'est qu'un aspect du problème. Mais je veux pas en dire beaucoup plus parce que sinon je deviendrai long et peut-être ennuyeux. Mais en tout cas, je vous remercie pour votre question.
Mais en fait, vous nous avez aidé à avancer parce que ce matin, justement, Christine opposait respectabilité. Il a beaucoup été question de respectabilité, hein. Encore cet après-midi, finalement, qui est très présente dans la notion de dignité, donc héritée des Romains, à celle de réputation. Hein, Christine, je parle sous ton contrôle. Tu citais un auteur.
C'est pas moi hein, qui.
Non, non, tu citais un auteur, mais tu t'appuyais en fait sur cette distinction.
Modèle anthropologique.
Ouais, voilà. Donc respectabilité, réputation.
On épouse la voie de la dignité que tracée par cette philosophie occidentale, c'est la respectabilité. Ce sont surtout les femmes qui sont chargées d'adhésion à la respectabilité. Et la réputation, c'est montrer sans arrêt qu'on est contre le pouvoir colonial et gagner son respect par sa démonstration de la réputation. Et c'est le modèle de Peter Wilson. Et dans le slackness, on est absolument dans la réputation. C'est un univers plutôt masculin.
Moi, j'ajouterais une chose, Christine, puisque je travaille sur l'Afrique et l'océan Indien, respectabilité, c'est aussi complètement approprié hein, par les ordres sociaux locaux depuis très très longtemps. Hein. Donc, c'est pas seulement la philosophie et les bourgeoisies blanches, hein, ça existe aussi ailleurs. Mais je trouve que là, on a vraiment eu des.
Excuse-moi, Didier, c'est valable en rapport. Je t'ai interrompu, excuse-moi. C'est en rapport avec la réputation, bien sûr que la respectabilité.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Voilà, c'est. C'est ce binôme réputation respectabilité.
Mais les points communs que moi je vois par exemple avec Madagascar, c'est les matrices un peu victoriennes et protestantes hein, qu'il pourrait y avoir côté jamaïcain, petite bourgeoisie noire, etc. Dont parle d'ailleurs Stuart Hall dans Familiar Stranger, hein, dans son autobiographie, hein, où il montre bien qu'en fait il découvre justement, je sais plus s'il dit l'autre Jamaïque, mais c'est un peu ça finalement. Hein, cette Jamaïque qui apparaît. À travers votre exposé, votre intervention, chez sa grand-mère, une de ses grand-mères, je ne sais plus laquelle, maternelle ou paternelle. Il entend en fait les rumeurs de cette autre Jamaïque, donc rurale. Il commence déjà à y avoir le Rastafari, etc. Et ces musiques populaires, finalement, hein, assez mêlées de spiritualité. Et qu'on va retrouver, ce qui me semble intéressant dans la trajectoire de ces musiques, c'est qu'elles vont être... sous l'œil de tout le monde, finalement, c'est médiatisé, etc. Alors, le point commun avec Madagascar, c'est que moi, j'ai un collègue ethnomusicologue, Julien Mallet, qui a travaillé, en fait, sur des musiciennes malgaches des côtes. Historiquement, à Madagascar, il y avait un royaume au centre de l'île qui est devenu protestant, très victorien, et qui est encore très puissant aujourd'hui. Donc, les normes le puritanisme, etc., vient beaucoup de là, alors que ailleurs à Madagascar, la construction historique est différente. Et donc, ces femmes, ça me faisait vraiment penser à Spice et d'autres personnages dont vous parliez, elles utilisent beaucoup le corps justement stigmatisé par des normes locales, peut-être héritées du christianisme, vraiment comme des contre-stigmates, comme des armes. Vous l'avez très très bien montré. Je trouve qu'il y aurait des échos bien au-delà de la Jamaïque. Donc je trouve que c'est vraiment très très bien en termes de comparaison. Et pour Norman Adjari, j'avais une question aussi qui était similaire à celle que j'ai posée à Jérôme Bouchet, c'est-à-dire votre positionnement, parce que vous nous avez parlé à un moment donné de l'afro-pessimisme version américaine, vous avez défini en fait, hein. Vous la vôtre, parce qu'on vous sent quand même pessimiste au fond, peut-être parce que vous êtes aux États-Unis, enfin on l'est quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, même quand on n'y est pas, mais peut-être que être aux États-Unis en ce moment, ça rend pas optimiste, mais quel est votre positionnement en fait de philosophe, de chercheur par rapport à ce que vous nous avez expliqué, hein, sur cette fongibilité noire? Est-ce qu'il y a des voies possibles de sortie? Et est-ce que, c'est pour faire le lien avec Jérôme Bouget, est-ce que la culture, même si elle est complètement instrumentalisée, ça peut être, enfin, la pensée, peut-être que ça peut être une voie pour sortir d'un certain désespoir, mais est-ce que la culture, les expressions culturelles, dans lesquelles il y a du corps quand même, ça peut être aussi des voies pour ne pas être dans ce huis clos pessimiste du moment?
Bon, ça c'est une grosse question. Je vais essayer d'y répondre le plus simplement et le plus rapidement possible. Je donne un séminaire doctoral cette année là, et on parle beaucoup d'afropessimisme. On parle d'afropessimisme et de Black Male Studies, et on essaye de voir un petit peu les connexions qu'il y a entre ces deux courants assez jeunes de la pensée africaine-américaine contemporaine. On se rend compte qu'il y a pas mal de faiblesses, de facilités dans l'afropessimisme. Bon, c'est un courant qui existe essentiellement par sa capacité d'énonciation, sa capacité de mobilisation, disons, mais la connexion avec des preuves empiriques et la capacité de vérifier chacune des affirmations des auteurs afropessimistes est parfois un petit peu ténue. Malgré tout, voilà, c'est quelque chose que j'apprécie, disons, à cause d'une capacité de création de concepts qui me semble très intéressante, même si je ne peux pas suivre absolument tout. Mais ce qui m'intéresse aussi là-dedans, c'est que ce n'est pas eux les inventeurs du pessimisme africain-américain, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'ils ont récupéré quelque chose qui était présent dans un courant un petit peu plus ancien, qui est notamment un courant de la jurisprudence, ce qu'on appelle aux États-Unis la jurisprudence, c'est-à-dire grosso modo la philosophie du droit états-unienne, qui est la « critical race theory ». Et la Critical Race Theory, dont l'un des auteurs, Kimberly Crenshaw, a inventé l'intersectionnalité, par exemple, dont on parle pas mal. Mais le principal auteur de ce courant n'est autre que Derrick Bell. Et Derrick Bell est peut-être le plus important des pessimistes raciaux des États-Unis. Et il est difficile de pas, en tout cas, bon, beaucoup de gens ne sont pas d'accord, mais moi, personnellement, quand je vois ce qu'il dit, j'en ai résumé quelques éléments. Il n'y a aucune raison. Il a par exemple étudié dans un livre la question de la déségrégation, et il a vu qu'il n'y a eu de déségrégation avec Brown versus Board of Education, c'est-à-dire le fameux procès qui a donné lieu à la déségrégation des écoles aux États-Unis, que cela n'a été possible que parce qu'on voyait qu'il y avait un intérêt matériel pour la majorité blanche à réaliser cette déségrégation. Et on voit bien aujourd'hui les conséquences de la déségrégation dont les critical race theorists parlent, c'est-à-dire que le pouvoir économique et l'autonomie économique des Noirs, qui avait été une conséquence, je dirais, perverse d'une certaine manière, mais un certain avantage permis par la ségrégation, l'autonomie économique, les commerces noirs, etc., car ils ont été obligés en autonomie de construire leur propre commerce, cela, environ 50 ans après la déségrégation, tout cela a été détruit, c'est-à-dire que les propriétés des Noirs ont disparu du fait de la déségrégation. C'est cela, si vous voulez, l'espèce de tragédie et de paradoxe qui, dans mes analyses, me force à être d'une certaine manière pessimiste, c'est-à-dire qu'on voit bien que les avancées ont toujours, ou ce qui est perçu généralement comme des avancées, ont toujours un contre-coup terrible pour la population noire. Et qu'il n'y a, d'une certaine manière, pas de bonne voie de considérer, de voir les choses, pas de comment dire, de raisons d'être optimiste, à mon avis. Comment dire, toutes ces théories sont nées, comme je le disais tout à l'heure, du contre-coup de la fin du moment révolutionnaire des années 1960-70. Je pense que ça doit revenir. Il n'y a pas vraiment d'autres possibilités pour sortir du pessimisme que de pouvoir s'appuyer sur des mouvements politiques solides. Je suis désolé de sortir de la réserve du chercheur pour ça, mais c'est comme ça que je vois les choses. C'est-à-dire, je pense que objectivement, à part la voie révolutionnaire, il n'y en a pas d'autre à espérer. Je ne vois pas. Toutefois, est-ce qu'il y a un intérêt à la production culturelle noire malgré sa tendance à la fongibilité? Oui, je pense, bien sûr, je pense, j'ai cité Arthur Jaffa, je crois, tout à l'heure, parce qu'il y avait Fred Motton dans son film. Ça, c'est un très bel exemple de quelque chose qui me semble être très intéressant. Il pourrait y en avoir d'autres, mais c'est... L'intérêt, selon moi, après ça aussi, c'est une analyse personnelle, quoi, c'est ma petite critique d'art personnelle, mais je pense que l'une des qualités aujourd'hui, à notre époque de fongibilité de l'art africain-américain ou afro-diasporique en général, c'est de créer des coitus interruptus d'une certaine manière, c'est-à-dire de ne pas laisser aller le spectateur à la négrophilie. Et le sortir de la jouissance esthétique, justement, le sortir de force de la jouissance esthétique et le forcer dans la réflexion, dans la pensée et dans le questionnement. C'est-à-dire une esthétique de sortie de l'esthétique dont on a un bon exemple avec Arthur Jaffa, mais il pourrait y en avoir d'autres dans la musique également. Je pense que la force de l'art contemporain africain-américain aujourd'hui, c'est le refus de faire plaisir et le désir de faire réfléchir à la place. Et aussi la capacité de parler à travers une œuvre ouverte à tous et comment dire, qu'il est possible, dans laquelle il est possible pour tout le monde de trouver un intérêt, de s'adresser spécifiquement au noir. De s'adresser au noir à travers une œuvre dans laquelle tout le monde peut lire quelque chose. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. J'ai un type comme Jaffa. J'aurais pu mentionner autre chose.
Je me permets juste, Didier, une petite remarque, parce que je trouve que ce que vient de dire Norman est absolument important. C'est quelque chose que j'essaie de formuler, moi, depuis un petit moment. J'y arrive pas, parce que c'est vrai qu'il y a... Bon, je suis anthropologue, je porte ça un petit peu comme un fardeau, hein, vu l'histoire de l'anthropologie. Mais c'est vrai qu'on est toujours surpris quand je dis que je suis anthropologue et mes sujets de recherche. Hein, ne suis-je pas mariée avec un homme noir? N'ai-je pas des enfants métis? Ne suis-je pas quelqu'un qui danse très bien les danses afro, etc. Et je trouve qu'il y a là-dessus tout un travail, mais il est dans les deux mondes, j'ai envie de dire. Et les deux, si nous, moi, je me suis approprié depuis un petit moment le mot décoloniser, hein. Décoloniser les savoirs, ok, décoloniser les arts, ok, mais c'est aussi, et c'est ici que ça se passe, je veux dire, dans la sphère blanche, française, européenne, britannique, etc. Ce mouvement de décolonisation doit être là, à la racine, il est aussi là pour justement ne pas tomber, être dans un vrai dialogue, qui ne soit pas celui d'une négrophilie, une négrophobie, et qui a du mal à être là, c'est ce dialogue-là qui a du mal à se créer. Moi, j'ai eu des moments magiques pour ça, de ce que j'appelle de vraies rencontres, qui ne sont pas liées à cette négrophobie et négrophilie qui est vraiment à la base. Et juste pour terminer, dire que le marché à esclaves, je pense que c'est effectivement une scène, mais une scène de mise en scène de la relation soit de désir, mais de désir aussi pervers. Et je pense que le désir pervers n'exclut pas de ramener l'être à l'animal, même sur la place du marché.
Aurélia, oui, tu voulais intervenir?
Oui, bah, on peut peut-être, je lève la main comme une...
Oui, en fait, ce que je me disais avec Christine, et je ne sais pas si Nicolas en est d'accord, mais c'est qu'on peut ouvrir maintenant, parce qu'on a quand même 15-20 personnes là qui sont muettes, enfin qui sont très très sympas, qui écoutent un peu tout le monde, mais elles ont peut-être des questions et des commentaires à faire, donc ça serait très bien. On peut peut-être commencer effectivement par les intervenants d'aujourd'hui, et puis après on ouvrira un petit peu plus largement. Et à la fin, je suis censé faire une conclusion, mais je pense que c'est un peu inutile que je sois seul à conclure. Enfin, moi j'ai ma conclusion, mais peut-être que Christine, Sarah, Nicolas, vous avez aussi peut-être quelques réflexions, hein, bilan à faire, et puis des ouvertures. Et disons que les petits échanges qu'on aura avec les uns et les autres nous aideront justement à faire ce bilan ouverture. Aurélia?
Oui, alors moi aussi, je voulais remercier les intervenants de cet après-midi parce que c'était extrêmement stimulant. Et ce que je voudrais rapidement faire, c'est vous partager avec vous la réflexion que j'ai depuis ce matin, en fait, enfin au fil des interventions, sur peut-être un positionnement épistémologique et cette notion de corps, tout simplement. Parce que en fait, on a eu des approches assez différentes. J'ai l'impression que il y a au départ peut-être une inquiétude, enfin une intention. Qui avait été mentionné par exemple avec l'approche de Stoller sur la chair de l'empire, qui était plutôt de faire du corps un endroit de savoir, hein, dans le sens où c'est une expérimentation totale et qui permet de toucher d'autres savoirs, d'autres expériences à travers l'expérience. Alors qu'en fait, et c'est comme ça que Nicolas a commencé son intervention, on est en train de s'atteler à une question qui sont des individus dont le corps est sans parole, hein, et dans une distinction qui est fondamentale, parce qu'en fait, c'est celle de l'esclavage. Le corps sans parole, c'est-à-dire, on pourrait reprendre la définition, enfin une description d'Aristote sur l'esclavage, le rapport du enfin, le corps sans parole, c'est même l'idée même de corps. C'est-à-dire que sans l'esclavage, au fond, c'est ce que je veux dire, il n'y a même pas d'idée de corps, comme quelque chose qui serait séparé du sujet ou qui serait complémentaire au sujet qui serait défini par la parole ou par la pensée plus largement. Et donc, je crois que c'est aussi ça qui fait qu'on ne sort pas de ce paradoxe, parce que précisément toute la pensée occidentale est fondée sur ce principe de séparation qui a été possible par l'esclavage, et je dirais que c'est la même chose pour le travail, c'est-à-dire que c'est dans cette séparation entre l'activité productive et la personne que l'on peut aliéner le travail, le rendre fongible, le rendre marchandise, etc. Et c'est la même chose pour la sexualité. Et donc c'est exactement grâce à l'esclavage, je dirais, que la prostitution est possible. Alors, c'est pour ça que la question de la scène des esclaves m'a interpellée. Merci, Norman Najari, c'était très stimulant. Parce que j'ai l'impression qu'on y retrouve exactement le mécanisme de la prostitution, hein, c'est-à-dire la mise en valeur des corps, de leur potentiel sexuel, le scénario de que tout le monde va être content de la transaction, toutes ces choses-là sont très similaires et au fond renvoient au même procédé qui est de faire de la sexualité quelque chose de marchandisable, d'objectivable, etc., et donc de déplaçable, de tout ce qu'on veut, qui est en fait le même procédé que le travail, enfin que fait l'esclavage avec le travail. Et à ce titre, alors, pour finir, je dirais que, du coup, ça rend effectivement très pessimiste, puisque si on considère que c'est au cœur de la construction de la pensée occidentale, donc du capitalisme, donc même du désir dans la société occidentale, il va être très compliqué, effectivement, d'inventer ou de réélaborer cette structure profonde.
Alors, est-ce qu'il y aurait des personnes, alors les intervenants ou pas, hein, qui souhaiteraient faire des commentaires ou poser des questions?
J'avais une petite question, ouais, pour Norman Najari. J'étais très, très intéressée par un point de votre présentation qui faisait un peu écho à quelque chose que j'avais essayé de dire ce matin au sujet de mes festivités de l'indépendance en Algérie. C'est le moment où vous parlez de la conscience du miracle de la survie et du miracle de la résilience. Parce que entre l'esclavage et la colonisation, on n'est pas en train de parler tout à fait de la même chose, de la même expérience, et pourtant c'est quelque chose que je ressens très fortement dans mes sources qui portent sur ce moment. C'est la très forte actualisation du fait que nous aurions pu ne pas être, que tout aurait pu s'écrouler, que le pays aurait pu ne jamais devenir indépendant, que beaucoup de gens sont morts pour ça et qu'il y a un miracle à obtenir son indépendance. Et du coup, j'étais très curieuse de la suite que vous donniez, parce que là aussi, j'avais l'impression que vous parliez de mon terrain, en réalité, de se construire en s'entourant des morts, si je vous ai bien entendu. Voilà, je me demandais si vous pouviez en dire un peu plus, si ça provenait de vous, si c'était quelles autres références ou éléments de contexte vous aviez.
Oui, tout à fait. En plus, je peux vous donner des références qui peuvent vous intéresser, puisqu'elles elles vont parler un peu, elles peuvent même parler de l'Algérie si vous voulez. Je pense que cette expérience du miracle de la survie, c'est quelque chose qui, à mon avis, et ça c'est pas si étonnant que ce soit en commun, que vous voyez des tonalités communes, je pense que c'est quelque chose qui est lié à l'expérience de se trouver dans un lieu qui est une colonie de peuplement, quoi, du settler colonialisme. Je pense que c'est quelque chose qui a un effet de cette expérience du settler colonialisme. Évidemment, c'est plus intense aux États-Unis, puisqu'ils ont effectivement éradiqué la population qui était là en premier à 90%, je crois. Donc, c'est-à-dire qu'on a l'attestation et la preuve que la chose est possible, ce qui rend, l'expérience des Noirs, ou l'idée que les Noirs, eux, ont réussi à survivre davantage que les autres, un petit peu plus tangible. Mais, je pense que ce sont des lieux ou des polités ou des espaces sociaux et politiques qui sont construits sur le fantasme du nettoyage ethnique en permanence et sur l'idée d'une avancée sur l'ennemi en permanence et sur l'interaction entre des espaces homogènes, ou en tout cas, si c'est pas vraiment fait, il y a toujours ce discours et ce fantasme politique de parvenir à blanchir tel espace, tel endroit, tel lieu, etc. Et je pense que c'est ce point commun-là entre l'Amérique du Nord et l'Afrique du Nord, en tout cas l'Algérie, peut expliquer des tonalités communes. Après, sur cette question du rapport entre les morts, j'ai écrit un article là-dessus qui est under review en ce moment, et où je prends des exemples de différents endroits. Il y a des exemples issus de l'Algérie là-dessus pour parler du rapport au deuil et de l'impossibilité du deuil tel qu'il est mis en place dans les sociétés coloniales et esclavagistes. Par exemple, le fait que pendant la conquête de l'Algérie, il y a un colonel qui s'appelait Montagnac, François de Montagnac, qui avait systématisé la décapitation des soldats algériens. Non pas simplement parce que c'était terrible, mais parce qu'il savait que dans la logique islamique, un homme décapité par un chrétien n'a pas accès au paradis. Donc il s'agissait d'utiliser cette impossibilisation du processus de deuil, cette sorte de violence par-delà la vie même, pour détruire le moral des troupes adverses. Donc on systématise. Et dans le même sens, il y avait des sacrations, des profanations systématisées de cimetières où on utilisait les pierres pour faire du gros œuvre, des travaux, etc. Et on pouvait même utiliser les cadavres qui restaient là pour faire du remblai pour les routes, etc. Ou utiliser les cadavres pour faire du charbon animal, quoi. Donc, et tout ça, c'est pas simplement une affaire d'instrumentalisation des biens qui sont là et du fait qu'on s'en fiche. C'est vraiment une affaire d'efforts de guerre psychologique qui investit les processus de deuil. Et Fanon, dans l'enceinte de la révolution algérienne, parle bien de ça aussi. Il dit que on a atteint un point où la possibilité du processus de deuil est telle qu'une espèce de, saut qualitatif, et ça devient la nécessité et l'évidence qu'il faut s'engager dans l'armée, parce que si, dans l'armée de libération nationale, parce que si la vie n'a plus de valeur et qu'on nous fait à ce point-là prendre conscience que la vie n'a plus de valeur et qu'il n'y a plus de différence entre la vie et la mort, alors ça signifie que on est prêt pour le martyr. Ouais, voilà ce que je peux dire pour connecter avec ce que vous venez de dire sur votre travail, que j'ai malheureusement pas entendu, mais je regarderai la vidéo.
Jacqueline Evaristo a levé la main sur Zoom. Est-ce que vous voulez poser une question?
Bonjour. Oui, monsieur. Je ne sais pas si c'est une question, mais peut-être en commentaire sur la question de la sexualité, principalement quand c'est parlé de cette question de la consommation du corps noir, de la c'est très récemment sorti une étude au Brésil, une étude en fait sur le matériel génétique qui montre comme la plus grande partie, je pense que 70% de la population brésilienne, elle a du matériel génétique masculin européen au blanc en général, on peut généraliser. Et par contre, le matériel génétique le matériel génétique mitochondrial, il est en général d'origine indigène ou noire. Alors peut-être ça contribue pour cette question de, parce qu'il y a toute cette, c'est une preuve, c'est très récent. Alors les conclusions à partir de cette preuve, c'est vraiment ça. C'est le Brésil, il est fruit d'une miscégénation déségale entre les hommes et les femmes, principalement les hommes en train de vraiment acheter ou des indigènes ou de femmes noires. Et bon, c'est un résultat aujourd'hui, un résultat populationnel. Et je trouvais très intéressant. Je ne sais pas si on peut croiser avec la discussion. C'est une étude assez récente, mais je ne sais pas s'il y a déjà de... Je sais qu'il s'agit d'une étude biologique, génétique, mais les historiens brésiliens, ils sont en train de traiter ces données. Et je ne sais pas, je pense que peut-être ce genre d'études pourrait se reproduire dans les autres endroits, par exemple peut-être les États-Unis. Mais je trouvais assez intéressant, et je sais pas, c'est pas vraiment une question, mais c'est plutôt un commentaire. J'espère que vous avez bien entendu, parce que mon appel n'est pas très bon, je suis désolée.
Oui, on vous a bien entendu. Nicolas ou Christine, je crois que vous vouliez intervenir.
Bah, je, comme Nicolas m'a donné la... Voilà, ouais. Je vais faire vite, c'était pour Jérôme. Moi, je voulais lui dire que la réflexion sur laquelle il a terminé sa communication, je trouve ça très intéressant. Je voulais voir si j'avais bien compris comme quoi la scène artistique était la scène d'une anthropologie, mais une anthropologie autre, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui vient étudier quelqu'un d'autre, c'est une anthropologie par soi-même, j'ai compris, enfin c'est quelque chose de cet ordre-là. Enfin, ça m'évoquait les études sur le jazz ou... je crois que c'est Jean Jamin qui avait suggéré que le jazz lui-même était une véritable anthropologie, c'est-à-dire montrer le rapport au pouvoir était pas une scénographie, mais une véritable représentation adressée à soi, aux autres, de ce qu'est la distribution du pouvoir, de ce que devrait être la distribution du pouvoir au travers de l'improvisation, etc., et que le jazz en lui-même était une anthropologie. Alors, je me demandais s'il fallait le comprendre comme ça par rapport à ce que vous disiez par rapport aux musiques dancehall.
Merci pour la question. Je connais effectivement ce texte de Jean Jamin, et je trouve que ces réflexions, ces intuitions sur ce point-là sont extrêmement intéressantes. Dans l'idée d'une rupture avec l'anthropologie des autres, que vous critiquiez d'ailleurs tout à l'heure, il y a l'idée d'une prise de distance avec cette espèce d'anthropologie des airs qui porte encore l'empreinte coloniale qu'ont traîne dans notre discipline, effectivement, comme quelque chose dont on a parfois un petit peu de mal à se départir. Et précisément, l'idée de ne pas constituer l'autre en objet, qu'on regarderait depuis le privilège d'une observation scientifique ou je ne sais quoi, et reconnaître que dans les productions, qu'elles soient artistiques, intellectuelles, quelles qu'elles soient, de ces soi-disant autres, il y a des anthropologies déjà à l'œuvre. C'est ouvrir la possibilité effectivement d'une anthropologie autre, non pas d'une anthropologie des autres, mais d'une anthropologie autre ou des anthropologies autres qui vont voir du côté de ces systèmes de réflexion, de représentation et de construction du sens et des sens en les prenant tout à fait au sérieux comme des systèmes qui ne sont pas forcément subsumables au savoir académique, etc., mais qui ont leur propre logique. C'est quelque chose qui m'a été inspiré par la lecture des auteurs décoloniaux d'Amérique du Sud, qui promeuvent ce type de, Et si je peux me permettre, je voudrais pas être trop long, mais ça a été rendu d'autant plus vif pour moi par une scène que j'ai vécue sur ce qu'on appelle le terrain. Moi, j'ai un petit peu de mal avec ça, mais cette idée, hein, pas le fait de faire du terrain, comme disaient les anthropologues, mais donc d'aller dans le... au contact de l'existence, moi je préfère le dire comme ça, et d'y être invité par quelques personnes qui nous apprennent leur monde, mais c'est pas pour autant mon terrain, j'aime pas cette métaphore de l'annexion là. Mais bref, donc je me retrouve en Martinique à vouloir travailler sur le Bélé Calenda Damier, qui est une culture expressive où se mêlent danse et combat. Et je rencontre l'un des acteurs de cette culture-là, qui est réputé comme détestant les Français, n'aimant pas les Blancs, et donc dont on m'avait dit que, même si j'ai des connexions assez fortes avec la Martinique, etc., familiales, il aurait du mal à me recevoir parce que je suis fonctionnaire de l'État français, ainsi de suite. Bon, bref. Donc, on se retrouve, il m'emmène dans la mangrove, loin, je ne savais pas trop où j'étais, je le suivais en bagnole. On commence à marcher et la discussion débute comme ça. Il me dit « t'es anthropologue ou sociologue, un truc comme ça ». Je lui dis « ouais ». « Donc, t'es fonctionnaire de l'État français ». « Ouais ». Il me dit « tu sais, ici, les anthropologues, on ne les aime pas. Parce que vous, votre manière de vous positionner vis-à-vis de nous, c'est d'essayer de nous comprendre, mais finalement, pour mieux nous dominer ». Vos soi-disant savoirs, votre pseudo-connaissance, on n'en a pas besoin. On a nos propres systèmes de pensée et on se passe très bien des vôtres. Ok, je n'ai rien eu d'autre à lui répondre que lui faire part de ma propre expérience, du décalage, de la rupture, je ne vais pas rentrer dans les détails, et de ma propre marginalité vis-à-vis de la société qu'il critiquait. Mais ce qui me semble extrêmement intéressant dans ce petit extrait, dans cette petite anecdote, qui n'est pas si petite que ça finalement, enfin, tout du moins dans ce qu'elle m'a fait comprendre, c'est que précisément il était en train de me dire qu'il avait sa propre anthropologie, qu'elle n'était pas nécessairement académique, comme nous l'entendons dans notre discipline, mais qu'il avait sa grille de lecture, son système de pensée, etc., et que j'avais à prendre cette grille de lecture-là au sérieux. Ce que j'aurais fait de toute façon, mais voilà ce que peut être une anthropologie autre et comment sans doute on a à repenser au moins une partie de nos engagements et de nos disciplines sur cette base-là, plutôt que de considérer qu'on peut objectiver la culture, le mode de vie ou je ne sais quoi des autres. Voilà. Je ne vais pas être plus long, mais c'est vraiment quelque chose qui fait question et qui, à mon avis, ne doit pas cesser de faire question en ethnographie, en anthropologie, etc.
Merci beaucoup pour... c'est plus qu'une anecdote, effectivement, et ça rejoint, je pense, Christine, tu t'en souviens, on a souvent eu, à la fin des journées d'études, ce type de réflexion-là. Hein, donc, c'est pour ça que j'ai posé aussi les questions à Jérôme et Norman sur leur positionnement, hein, donc nos savoirs académiques, etc., par rapport à d'autres mondes et des mondes qu'on associe. Et là, il me semble justement... Que le positionnement de Jérôme, c'est une voie tout à fait intéressante, hein, sur laquelle on pourrait revenir par la suite avec lui ou d'autres. Parce qu'en fait, en réalité, Il y a un programme qui n'est pas simple à construire. Et Jérôme, vous avez parlé de la Martinique, mais c'est vrai que quand on est, comme moi, blanc, on travaille sur l'Afrique, Madagascar, etc., qu'il y a eu une histoire coloniale, qu'il y a eu des répressions, qu'il y a eu beaucoup de choses, et que ça continue, je dirais que c'est presque encore plus difficile. Et on n'a jamais trop l'occasion d'en parler. Et je pense qu'il serait bien temps, après des invitations diverses, hein, vous avez parlé des coloniaux, il y en a eu d'autres avant, d'y revenir un jour, hein, ensemble, et de croiser nos témoignages, hein, nos difficultés, pour effectivement être plus dans une sorte de symétrie, finalement, hein, qu'on a du mal à... Enfin, ça choque toujours, hein, parce qu'on retombe toujours sur nos routines savoir-pouvoir habituelles. Voilà. Je crois qu'il y avait une... Oui,
j'avais une... Enfin, c'était juste une remarque par rapport à ce qu'a dit Jérôme. Voilà, simplement, la question de l'alter-anthropologie, elle a été théorisée en ethnologie, notamment par Eduardo Viveros de Castro. Donc, l'ouvrage Métaphysique cannibale est paradigmatique par rapport à cette question d'une rupture épistémologique avec une anthropologie qui se voudrait coloniale. Donc, j'invite vraiment à lire cet ouvrage, Les Métaphysiques cannibales. Voilà, c'est une simple remarque.
Absolument. Merci beaucoup.
Si je puis me permettre, alors je n'ai pas lu ça de Viveros de Castro, mais j'ai lu d'autres choses. Mais je me demande si on arrive à résoudre. Je trouve qu'il y a encore, bien que je défende, ça a l'air curieux parce que on dirait que je suis en train de scier la branche sur laquelle je me trouve. Je n'ai plus de raison à mon âge de me trouver des légitimités pour occuper la place d'anthropologue ou quoi que ce soit. J'ai envie de dire, c'est derrière moi, tout ça. Mais je crois qu'il y a un enjeu de dialogue et que l'anthropologie, mais même Foucault le disait, l'anthropologie est une des disciplines la plus à même de réfléchir sur elle-même. Peut-être que, mais elle a un sale passé quand même, il faut s'en rendre compte.
Oui, mais ce que...
Et chez Viveros de Castro, je retrouve quand même ce biais qui non, est de retrouver dans l'indigène.
Excusez-moi, pour moi, la lecture de cet ouvrage, ça a opéré une véritable révolution. Donc, c'est pour moi l'ouvrage qui m'a amené justement à théoriser une pensée qui se voudrait proprement parler décoloniale. Tout ça, de par le regard qu'il entretient dans ce livre, que je vous invite à lire. Et donc, la théorie perspectiviste qu'il met en place et qui consiste simplement à dire que finalement l'objet ethnographiant est regardé par l'objet ethnographié et il y a une dialectique permanente et un jeu de regard permanent entre la personne entre guillemets ethnographiée et la personne ethnographiante. Pour moi, ça a été vraiment une...
Je partage votre avis, mais ce perspectivisme ne me continue à me poser problème tant qu'il relève au sein de l'institution qui s'appelle la science et l'académie.
Mais vous avez commencé par lire cet ouvrage et ensuite.
Oui, mais j'ai lu, comme je vous dis, j'ai lu des articles. J'ai pas lu l'ouvrage, mais j'ai lu des articles.
Oui, mais cet ouvrage, il est vraiment fondamental.
Donc je pense que dans ces articles, il ne trahit pas sa pensée. Mais je trouve des choses très intéressantes, mais je dis que la porie qu'il y a n'est toujours pas résolue. Et elle sera résolue quand les perspectives dont nous parle Viveros de Castro, quand les personnes qui ont... Alors, je ne suis pas la tourienne, hein, mais la question se résoudra par une véritable symétrie. Venez nous étudier, j'ai envie de dire, avec des modèles, ce que disent d'ailleurs Motène que vous citiez tout à l'heure, moi j'ai trouvé là, cette idée d'aller pervertir l'académie par l'intérieur pour amener d'autres regards, prendre de l'académie ce qu'elle peut donner pour arriver à transformer ces jeux que l'on a. Et dans Viveros et Castro, dans comment il s'appelle notre grand anthropologue Tim Ingold en ce moment, même Escobar, je retrouve quand même un filet jeté comme un nouvel orientalisme qui s'appellerait l'ontologisme. Et je suis pas encore, je suis pas encore satisfaite, je trouve, mais je sais la branche sur laquelle je suis, hein, je suis dans la même posture, hein, donc voilà, je reste critique.
Je suis complètement d'accord avec vous. Je trouve que c'est très intéressant chez Viveros de Castro, c'est l'idée qu'il développe dans le livre, c'est-à-dire l'anthropologie comme une co-construction, si vous voulez, de la connaissance par celui qui écrit, l'anthropologue, et les individus qui ont traditionnellement dans la discipline été en position de sujet, en position d'observer. Ça, je pense que c'est une bonne idée, quoi. C'est une bonne idée méthodologique. Mais après ce qu'il en fait, effectivement, je pense que c'est, comment dire, et pas seulement dans les métaphysiques cannibales en tant que telles, où voilà, il plaque du Deleuze là-dessus, je sais pas trop pourquoi, moi personnellement je vois pas spécialement l'intérêt, mais également dans ces autres textes où on voit que tout cela, comme vous disiez, à mon avis, s'effondre dans un discours politique particulièrement consensuel, une espèce d'écologisme assez, comment dire, bon, assez basique, assez bas de gamme, et surtout, à mon avis, puisqu'on parlait tout à l'heure du Brésil et de la place, si vous voulez, de la population noire dans le pays, qui est au final, je dirais, une espèce de position romantique de l'indigène, de l'indigénisme, etc., et qui a extrêmement peu de soucis pour la majeure partie de la population brésilienne, c'est-à-dire la classe ouvrière noire, pour le dire vite, la classe ouvrière noire populaire des villes. Ces gens-là vont pas se transformer en... Et je veux dire, c'est exactement le même problème que j'ai avec Escobar, par exemple. C'est-à-dire, les Noirs deviennent intéressants pour une certaine catégorie d'anthropologues, à partir du moment où ça devient des nouveaux Indiens, où ils vont vivre dans la forêt, etc. C'est-à-dire, on a cette espèce d'appel de la nature. Moi, parfois, Viveros de Castro, je l'appelle le Ernst Jünger Carioca, quoi. Voilà, c'est un petit peu ce truc de le retour aux forêts, ça va nous sauver, etc. Moi... Si vous voulez, je trouve que méthodologiquement c'est intéressant, mais je trouve qu'en ce qui concerne ses conséquences pratiques et ses conséquences politiques, j'aime pas ce vieux vocabulaire marxiste, mais là pour le coup je suis bien obligé de le sortir, je trouve ça profondément réactionnaire.
Un peu plus
que Deleuze lui-même.
C'est dit d'une manière dont j'aurais pas osé le dire, et pourtant on occupe, c'est vrai que moi j'ai été choquée par tout ce nouveau courant qui nous crée un nouvel orientalisme qui s'appellerait l'ontologisme. Voilà. C'est dommage parce que c'est intéressant, mais malheureusement, ça...
Excusez-moi, je vais le défendre un peu. Le propos premier d'Eduardo Viveros de Castro, c'est de prendre au sérieux les cultures amérindiennes. Il dit simplement, au lieu de nier des populations qui vivent au Brésil, qui étaient au Brésil bien avant la colonisation du Brésil par Portugal, il dit simplement, voilà, il s'agit de, ouais, tout simplement de tendre l'oreille à une parole qui a été en permanence amoindrie par l'expérience coloniale. C'est simplement ça le premier geste de Viveros de Castro, ce qui m'a amené, moi, dans le cadre de ma thèse, justement, à prendre au sérieux ces cultures qui était effectivement présente sur ce territoire, mais dont on ne parlait jamais dans le cadre, de la performance ritualisée sur laquelle j'ai travaillé, qui se nomme la Mystica au Brésil. Donc, j'étais, en travaillant justement sur la question de la prise en compte de ces cultures amérindiennes, ça m'a permis d'apporter un regard novateur sur cette pratique rituelle, qui était systématiquement cantonnée au catholicisme, fortement amérindianisé au Brésil. Donc, pour moi, Eduardo Viveros de Castro, c'est un auteur éminemment important dans la mesure où il permet de recadrer son regard vis-à-vis notamment de ces cultures amérindiennes qui ont été systématiquement minorées au Brésil. Voilà, rien de plus.
Ouais. On va peut-être conclure rapidement. De toute façon, je pense qu'on aura l'occasion de se retrouver pour...
Si je peux me permettre.
Oui, pardon. Oui.
Je voulais juste, mais vraiment en deux mots, revenir sur cette idée des anthropologies autres. Si je ne l'ai pas référencé, c'était à dessein, parce que je suis d'accord avec Christine pour dire, et avec Norman et avec d'autres, pour dire que c'est une question que nous sommes loin d'avoir résolue. Et sans doute que je veux pas dire qu'il a été le précurseur ignoré de ce type de questionnement. Et pourtant, on trouve dans l'œuvre de Michel Léris, qu'on considère à mon avis trop peu, les prémices de ce type de questionnement. Et je pense qu'on gagnerait beaucoup à le relire. D'ailleurs, les animateurs du séminaire de Santa Fe, James Clifford, George Marcus, dans les années 1980, avaient fait un retour à Léris sur ces questions-là. Et ce qu'il avait décrit comme l'Afrique fantôme, à savoir aussi le fait que un occidental ne saisissait jamais que des fantômes d'Afrique et ne pouvait pas voir ce qui se déployait devant ses yeux. C'est quelque chose, c'est une intuition qui, moi, me semble encore aujourd'hui extrêmement forte. Sur ces questionnements-là, que nous sommes très loin, sans doute très très loin de refermer.
Alors Christine, tu me disais que quelqu'un voulait parler, je ne sais pas qui voulait s'exprimer.
Vera, il me semble t'avoir vu. Oui, voilà.
Oui, potentiellement, mais ça c'est plutôt quelque chose général en tant que partenaire de coopération, mais peut-être aussi comme anthropologue urbaine. Je voudrais vous remercier pour cette journée et ces contributions inspirantes et brillantes. Et nous, en tant que réseau d'architectes, de designers, urbanistes et des disciplines de sciences humaines en résonance, c'est-à-dire ceux qui traitent les formes. Nous vous remercions et écoutons attentivement car vos propos et vos analyses sont essentiels pour mettre en labeur une pratique alternative qui met en dialectique et en des approches coloniales et encore à expérimenter d'une approche vraiment décoloniale dans nos pratiques de création. Et pour nous, cette première journée était vraiment très importante, même si on était encore silencieux. Mais j'espère on peut précisément approcher ces réflexions et essayons ensemble de les traduire ou inscrire dans nos pratiques. Et voilà, ça c'était juste un remerciement que vous avez aussi l'ouverture de faire cette coopération avec nous à développer.
Merci beaucoup. Alors je précise que Vera est donc notre partenaire Civic City 10 milliards humains et que ce sont des designers qui sont extrêmement concernés par les traces coloniales et qui ont fait un énorme travail au Palais de la Porte Dorée en février et qui montre que la décolonisation ou la décolonisation des savoirs, c'est vraiment aussi à l'intérieur des espaces de pouvoirs coloniaux. Et voilà, donc on collabore maintenant ensemble et le design concerne aussi, c'est une pensée de la forme, une pensée qui devient forme et voilà, donc
voilà. Oui. C'est précisément cette relation pour comprendre parce que nous produisons pour les êtres humains, il faut comprendre précisément toutes les formes et les actes coloniales et domination et c'est le colonialisme qui persiste et c'est le colonialisme néolibéral qui applique aussi des formats semblables et comment on peut apprendre aux stratégies pour les implanter et pour développer des formes précisément vraiment décoloniales on est tout au début de compréhension et pour ça on est dans plein d'écoute de vos analyses parce que c'est toute cette démarche qui nous permet après faire peut-être des propositions alternatives parce que pour l'instant et ça j'ai appris aussi avec vous cette journée comment profondément c'est encore inscrit dans nos pensées. Et voilà, on a pensé, on se met en route pour apprendre.
Alors, merci beaucoup. Peut-être moi, je vais dire deux, trois choses un peu conclusives et puis des pistes. Ça ne sera pas aussi synthétique qu'on le voudrait, mais voilà, c'est quelques pistes. Et puis peut-être Nicolas et Christine aussi, vous pourrez voilà, faire vos bilans et vos ouvertures. Alors moi, ce que je retiens effectivement, je vais repartir de ce que nous disait Nicolas ce matin, c'est-à-dire qu'on avait encore à répondre aux défis hein, de la pensée du corps. Je rappelle, on l'a pas fait ce matin, que au milieu des années 2000, il y a deux philosophes, Michela Marzano et Bernard Andrieux, qui ont fait coordonné deux gros dictionnaires sur le corps. Hein, et au fond, on voit très bien 15 ans après qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, je pense que là, il y a toute une piste à suivre. Et moi-même, j'en ai pas trop parlé aujourd'hui, mais je travaille sur le sensoriel. Et donc, la question de l'oppression par les sens, la libération aussi par les sens, je pense qu'elle pourrait être, elle pourrait être analysée finement. Alors, l'autre point, c'est que Norman Ajari, dans son intervention, eh bien, lui, au fond, enfin, moi, ce que j'en ai compris, et le titre même de son livre le dit, il n'y a pas d'humanité sans dignité. Hein. Donc, c'est la dignité ou la mort. Donc, voilà. Il y a eu des processus, et encore aujourd'hui, des processus de déshumanisation. Et il faut pas se voiler la face. Ça existe, c'est profond. Voilà. Alors, ce qu'on a quand même vu dans plusieurs interventions, c'est qu'il y a des stratégies qui partent souvent du bas, même si le bas n'est pas flottant. Hein, ça avait été rappelé par Raphaël Gallien chez des aliénés à Madagascar, des références à l'État. D'ailleurs, je n'ai pas fait la remarque, mais c'est aussi l'État malgache, hein, parce qu'il a parlé de monarchie merne, etc. Donc, il y a, en fait, on se définit comme sujet dans cet exemple-là aussi par rapport à ce référent étatique, hein, ça existe, et puis évidemment à l'époque coloniale et post-coloniale. C'est aussi le cas pour l'Algérie. Le référent à l'État, ça a été mis en avant, enfin le parti puis l'État qui se met en place et qui a noué des relations internationales, etc. Donc il y a effectivement cette presque auto-définition hein, de ce que c'est qu'être digne. Au fond, on l'aura compris, être humain, hein, avoir un commun partageable, viable. Alors bien sûr, il y a des tensions dans les dynamiques qui ont été mises en avant par les uns et des autres, hein, qui sont en fait des tensions qui renvoient finalement à des sociologies locales. Voilà, hein, toute la question d'un côté respectabilité avec toute l'historicité du terme, des questions aussi d'auto-légitimité ou de légitimation. Mais dans tous les cas, en fait, ce qui me semblait assez intéressant et qu'on pourrait continuer de travailler, c'est la question de la conquête. Moi, dans mes propres recherches, en fait, hein, je travaille sur les villes, des villes coloniales. Donc, la ségrégation était très forte. Au Mozambique, elle ressemblait un peu à l'apartheid de l'Afrique du Sud. Et de manière très empirique, j'avais forgé, alors c'est même pas une notion, hein, mais en tout cas une proposition, c'était au lieu de dire seulement citadinité, comment est-ce que des colonisés construisent leur citadinité avant même l'indépendance, eh bien, parler d'une citadinité. Hein, et donc, voilà, mais j'avais pas, en fait, c'est plutôt un programme de recherche qui obligerait, un peu comme Jérôme l'a proposé, d'ethnographier, d'aller sur un terrain où on apprend beaucoup, en fait, des acteurs, hein, donc quand ils se souviennent un peu de ce passé-là, et pas forcément de balancer des choses parmi toutes les références. Par exemple, à un moment donné, j'avais croisé les capacités de Amartya Sen ou Martha Nussbaum. Je pense que ça peut être pas mal plutôt de voir comment des acteurs au présent parlent de ce passé ou construit effectivement le socle d'un monde viable et qui serait voilà, qui passerait par exemple par la construction d'une ville décente. Alors, je m'étais posé une question pendant que au cours de la journée, je m'étais dit, et si Norman Ajari avait démarré, en fait, la journée d'études et pas fini la journée d'études? Je pense que c'est tout à fait, c'est pas anodin parce que vous l'avez souvent remarqué dans les journées d'études, hein, bon, bien sûr, on compose un programme, mais ensuite, il colore un peu l'impression finale que l'on a. Et peut-être que si on avait démarré, en fait, par son intervention, On serait allé vers quelque chose, j'ai posé exprès de manière un peu presque provocatrice, la question de l'optimisme. Hein, je crois qu'on en a besoin quand même en ce moment. On aurait peut-être eu une autre voie hein, si on avait fini par Jérôme, par exemple. Peut-être qu'on aurait eu une coloration un peu plus optimiste, c'est-à-dire apprendre du subalterne, pour le dire très très vite, hein, et pas effectivement être totalement désespéré hein, par le fait que le futur que l'on attendait à une certaine époque, que l'on attend toujours, n'advient pas. Voilà, donc je m'arrêterai là et je donnerai la parole à Christine et Nicolas pour leurs conclusions respectives et peut-être les voies que cette journée ouvre pour la suite.
Bon, ben moi, je vous remercie à tous, bien évidemment. Ces journées, ben moi, elles sont toujours un plaisir, mais je me rends compte que je suis une élève encore comme à l'école. Je ne suis pas disciplinée parce que aujourd'hui, d'être devant un écran, j'ai été obligée d'écouter scrupuleusement, alors que si nous étions en présentiel, moi, j'adore le moment, je disais à la pause à Esteban que j'ai appelé, je lui disais que ce qui me manque, c'est les arrières des séminaires, le couloir des séminaires, tout ce qui se dit, le bavardage, mais la puissance du bavardage. Mais ça me manque aujourd'hui, là. Alors, j'ai été bonne élève, j'ai pris des notes, je vous ai écouté, mais je me dis qu'il va falloir quand même faire du présentiel, on peut pas faire sans, c'est pas possible, quoi. Et justement pour les petites, tout ce qui se dit dans l'arrière-cour qui fait notre métier et qui est, certes, c'est intéressant, hein, tout notre développement de la pensée intellectuelle, mais la rencontre, c'est quand même quelque chose. Voilà. Donc moi, je voulais vous remercier infiniment. Ça colle, c'est quelque chose qui est encore en cohérence avec une journée, avec notre recherche du paradigme caraïbéen qui dévoile les ressorts de la modernité occidentale. Donc, tout a collé aujourd'hui. C'est encore une journée qui s'ajoute de manière riche à notre corpus et qui sera en ligne. Merci à tous. Et puis, en espérant rester en contact avec ceux que je ne connaissais pas, Norman, que je connais par Toulouse, mince, Jean-Christophe, Godard et puis Jérôme que je connaissais pas et que maintenant je connais et j'espère rester en contact avec vous. Voilà. Et Raphaël, je pense que je resterai aussi et puis voilà. Les autres aussi. Voilà. Aurélien, on se connaissait. Malika, on se reconnaît maintenant. Voilà. Merci à tous.
Nicolas.
Oui, merci. Je vais être évidemment très rapide parce qu'on a plus le temps. Je voudrais d'abord remercier tout le monde de sa participation et en particulier ben, les intervenants et les intervenantes. Moi, ce que je trouve vraiment très important dans notre journée d'études, c'est la mise en discussion de plusieurs disciplines scientifiques des sciences sociales. On a eu donc des historiens, des historiennes, sociologues, philosophes, anthropologues. Et je pense que c'est tout à fait fondamental dans la mesure où ces sujets ben, intéressent de multiples disciplines et en particulier les intéressent dans un rapport au temps, à la temporalité historique qui est différent. Et c'est d'autant plus important, me semble-t-il, que les concepts, les représentations sur les sujets qu'on a abordés aujourd'hui sont encore mouvants. Didier vient de le rappeler, hein, il y a eu des travaux de longue date sur la question du corps, notamment, et on est encore aujourd'hui en train d'en discuter, donc ces concepts, ces représentations sont mouvantes, elles sont non figées. Norman Ajari en a bien parlé également en nous proposant notamment un panorama théorique et philosophique de la situation des Black Studies today, aujourd'hui, excusez-moi, aux États-Unis. Et puis, moi, j'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit donc Jérôme Bochès sur cette possibilité, éventuellement, peut-être avec un point d'interrogation, d'une anthropologie autre. Et en tant qu'historien, je me demande si une histoire autre pourrait également exister et de quelle façon. Et je voudrais terminer sur ce qu'a dit Norman Ajari de la dignité des populations minoritaires, mais en particulier des populations identifiées comme noires, la dignité comme une malédiction en fait. Une malédiction parce que toujours et encore, ces populations doivent prouver leur dignité aux populations majoritaires pour pouvoir éventuellement espérer exister à égalité, c'est-à-dire à avoir une vie qui puisse être respectée et, tant que faire se peut, atteindre les mêmes niveaux de conditions matérielles. Mais pour ce faire, cette dignité devrait aboutir à un changement radical, comme le disait bien Norman, des structures sociales, en particulier des structures symboliques, mais aussi des structures politiques, économiques, etc. Et donc, cette question pose fondamentalement, je crois, la question du recours à la violence. En fait. Que se passe-t-il dans des sociétés où on mettrait de côté le recours à la violence ? Que quid de la dignité quand elle n'est pas imposable à l'autre par le recours à la violence armée ? Je le dis parce que les Africains-Américains, dans leur histoire, ont pu recourir à la violence avec d'autres, notamment lors de la guerre de sécession. On doit comprendre, me semble-t-il, la guerre de sécession comme une révolution des esclaves. Mais quand cela n'est pas possible, comment imposer sa dignité aux autres ? C'est ce que demandait Dubois. Et ça reste une question ouverte et je pense que si on discute encore aujourd'hui de ces questions, c'est précisément en réalité au fond de l'affaire, dans le rapport de nos sociétés à la violence imposée aux minoritaires et à la violence éventuelle que les minoritaires pourraient utiliser ou pas pour leur libération. Et donc, je pense que si la dignité est malédiction, c'est aussi dans son rapport tout à fait particulier à la violence dans l'histoire qui nous intéresse ici. Et je pense qu'on devrait aussi y réfléchir plus avant, en fait. Que se passe-t-il si éventuellement le recours à la violence armée, qui peut dans certains cas être légitime, est mis de côté. Ce n'est pas très optimiste.
Bon, on va s'arrêter là. Donc, merci aux intervenants et merci au public également. Et puis, à bientôt.